Chapitre 60, neuvième principe, non-ingérence de la religion dans la politique. La conduite de l'homme est inspirée par deux mobiles principaux, l'espoir de la récompense et la crainte du châtiment. Les autorités qui remplissent d'importantes fonctions au sein du gouvernement doivent donc prendre ces deux sentiments en considération. Leur tâche consiste, après s'être consultés, à créer des lois et à en assurer la stricte application. L'édifice de l'ordre dans le monde est érigé et construit sur les deux piliers de la récompense et de la rétribution. Sous un gouvernement despotique, occupé par des hommes dénués de foi en Dieu, dans lequel la crainte de la rétribution spirituelle est absente, l'application des lois est faite d'une manière tyrannique et injuste. Il n'est pas de meilleur moyen d'éviter l'oppression que ces deux sentiments d'espoir et de crainte. Ils ont tous deux des conséquences politiques et spirituelles. Si les administrateurs de la loi prenaient en considération les conséquences spirituelles de leurs décisions, et s'ils suivaient les directives de la religion, ils seraient les divins agents sur le plan effectif, les représentants de Dieu pour les habitants de la terre. Pour l'amour de Dieu, ils défendraient les intérêts de ses serviteurs comme ils défendraient les leurs. Si un gouverneur se rend compte de sa responsabilité et s'il craint de braver la loi divine, ses jugements seront justes. Si, par-dessus tout, il croit que les conséquences de ses actes le poursuivront au-delà de sa vie terrestre et qu'il récoltera ce qu'il aura semé, cet homme fuira certainement l'injustice et la tyrannie. Au contraire, si un fonctionnaire pense que la responsabilité de ses actes doit prendre fin avec sa vie terrestre, s'il n'a aucune idée sur les faveurs divines ni sur le royaume de félicité, et s'il n'y croit pas, il manquera du stimulant nécessaire pour se conduire avec droiture, ainsi que de l'inspiration voulue pour détruire l'oppression et l'injustice. Quand un souverain sait que ses jugements seront pesés sur la balance du divin juge, et que si l'examen est satisfaisant, il entrera dans le royaume céleste où la lumière de la bonté divine brillera sur lui, il agira certainement avec équité et justice. Voyez combien il importe que les ministres d'État soient éclairés par la religion. Le clergé, cependant, doit rester en dehors des questions politiques. Dans l'état actuel du monde, les affaires religieuses ne devraient pas être mêlées à la politique, leurs intérêts n'étant pas les mêmes. La religion touche aux questions du cœur, de l'esprit et de la morale. La politique concerne le côté matériel de la vie. Les instructeurs religieux ne devraient pas empiéter sur le domaine politique. Ils devraient se consacrer à l'éducation spirituelle des peuples, donner sans cesse d'utiles conseils aux hommes, essayant de servir Dieu et l'espèce humaine. Ils devraient tâcher d'éveiller les aspirations spirituelles et s'efforcer d'élargir la compréhension et les connaissances des humains, de perfectionner la morale et de développer l'amour de la justice. Tout ceci est conforme aux enseignements de Baha'u'llah. Dans les évangiles aussi, il est écrit « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». En Perse, quelques-uns des ministres d'État sont des hommes religieux, exemplaires, adorant Dieu et craignant de désobéir à ses lois. Ils jugent avec justice et gouvernent le peuple avec équité. D'autres gouverneurs de ce pays n'ont aucune crainte de Dieu. Ils ne se soucient pas de leurs actes, travaillant pour satisfaire leurs propres désirs, ce qui a jeté la Perse dans de graves ennuis et difficultés. Ô amis de Dieu, soyez de vivants exemples de justice, afin que par la grâce de Dieu, le monde puisse voir d'après vos actes que vous manifestez les attributs de justice et de pitié. La justice n'est pas limitée, c'est une qualité universelle. Son action doit s'étendre à toutes les classes, de la plus élevée à la plus basse. La justice doit être une chose sacrée. Il faut que les droits de tous les peuples soient pris en considération. Ne souhaitez aux autres que ce que vous désirez pour vous-même. Nous nous en réjouirons sous le soleil de justice qui brille de l'horizon de Dieu. Tout homme a été placé à un poste d'honneur qu'il ne doit pas déserter. L'humble ouvrier qui commet une injustice mérite le même blâme qu'un tyran célèbre. Ainsi, nous avons tous le choix entre la justice et l'injustice. J'espère que chacun d'entre vous deviendra juste et dirigera ses pensées vers l'unité de l'humanité. Que vous ne direz du mal de personne et ne nuirez pas à votre prochain. J'espère que vous respecterez les droits de chacun, vous souciant plus des intérêts des autres que de vos propres intérêts. Vous deviendrez ainsi des flambeaux de divine justice. Vous agirez conformément aux enseignements de Baha'u'llah, qui, pendant sa vie, supporta d'innombrables épreuves et persécutions, dans le but de manifester au sein de l'humanité les vertus du monde divin. Vous pourrez ainsi réaliser la suprématie de l'esprit et vous réjouir en la justice de Dieu. Par sa miséricorde, la bonté divine descendra sur vous, et c'est pour cela que je prie. Chapitre 61, dixième principe, égalité des sexes. Le dixième principe de l'enseignement de Baha'u'llah, c'est l'égalité des sexes. Dieu a créé tous les êtres par couple, homme, animal ou végétal, toutes les créatures de ces trois règnes sont des deux sexes, et l'égalité est absolue entre elles. Le monde végétal comprend des plantes mâles et des plantes femelles, dont les droits sont égaux, et qui partagent pareillement la beauté de leur espèce, quoiqu'on pourrait vraiment dire que l'arbre donnant des fruits est supérieur à l'arbre stérile. Dans le monde animal, nous voyons que le mâle et la femelle ont les mêmes droits, et que chacun d'eux jouit des avantages de son espèce. Nous avons donc constaté que dans les deux règnes inférieurs de la nature, il n'est pas question de la supériorité d'un sexe sur l'autre. Dans l'espèce humaine, il y a une grande différence. Le sexe féminin est considéré comme inférieur et on ne lui accorde pas de droits et de privilèges égaux à ceux de l'autre sexe. Cette condition ne vient pas de la nature, mais de l'éducation. Dans la création divine, il n'y a pas de distinction semblable. Et au regard de Dieu, l'un des sexes n'est pas supérieur à l'autre. Pourquoi donc l'un d'eux devrait-il affirmer l'infériorité de l'autre, lui refusant les justes droits et les privilèges, comme si Dieu avait autorisé une telle ligne de conduite? Si les femmes bénéficiaient, comme les hommes, des avantages de l'éducation, le résultat démontrerait leur égale capacité pour les études. À certains égards, la femme est supérieure à l'homme. Elle a le cœur plus tendre, elle est plus réceptive et possède une intuition plus vive. On ne peut nier qu'en différents domaines, la femme soit actuellement moins avancée que l'homme, ni que cette infériorité temporaire soit due à ce que l'occasion de s'instruire lui ait fait défaut. Face aux nécessités de la vie, la femme est mieux armée que l'homme, car c'est à elle qu'il doit son existence même. Si la mère est éduquée, ses enfants recevront une bonne éducation. Une mère sage guide ses enfants dans la voie de la sagesse. Une mère pieuse leur enseigne comment ils devraient aimer Dieu. Une mère douée d'une bonne moralité dirigera ses jeunes enfants dans la voie de l'honnêteté. Il est donc clair que la génération future dépend des mamans d'aujourd'hui. N'est-ce pas une responsabilité vitale pour la femme? N'est-il pas nécessaire de lui donner tous les avantages possibles pour l'équiper en vue d'une telle tâche? Par conséquent, Dieu n'est sûrement pas satisfait qu'un instrument aussi important que la femme doive souffrir du manque d'instruction et ne puisse acquérir les qualités souhaitables et nécessaires pour accomplir la grande œuvre de sa vie. La justice divine exige que les droits des deux sexes soient également respectés, puisque, au regard de Dieu, aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Pour Dieu, la dignité ne dépend pas du sexe, mais de la pureté et de l'éclat du cœur. Les vertus humaines sont données à tous de manière équivalente. La femme doit donc s'efforcer d'atteindre à une plus haute perfection, d'être l'égale de l'homme à tous égards et de faire des progrès pour rattraper son retard, afin que l'homme soit obligé de reconnaître cette égalité d'aptitude et de réalisation. En Europe, les femmes ont fait de plus grands progrès qu'en Orient, mais il reste encore beaucoup à faire. Quand les étudiants sont arrivés au terme de leur année d'école, ils passent un examen dont le résultat détermine la somme de connaissances et de capacités de chacun d'eux. Il en sera de même pour la femme. ses actions démontreront sa mesure. Il ne sera plus nécessaire de la proclamer par des paroles. C'est mon espoir que les femmes progresseront rapidement en Orient comme en Occident, jusqu'à ce que l'humanité atteigne la perfection. La bonté de Dieu est destinée à tous et donne à chacun la force de progresser. Quand les hommes reconnaîtront l'égalité des hommes et des femmes, celles-ci n'auront plus besoin de lutter pour leurs droits. L'un des principes de Baha'u'llah, c'est donc l'égalité des sexes. Les femmes doivent faire les plus grands efforts pour acquérir la force spirituelle et pour accroître leurs qualités de sagesse et de sainteté, jusqu'à ce que leur lumière et leur ardeur réussissent à établir l'unité du genre humain. Il leur faut travailler avec un enthousiasme fervent pour propager les enseignements de Baha'u'llah parmi les peuples, afin que la lumière radieuse de la bonté divine puisse entourer les âmes de toutes les nations du monde. Chapitre 62, 11e principe, puissance de l'Esprit-Saint. Dans les enseignements de Baha'u'llah, il est écrit « C'est seulement par la force de l'Esprit-Saint que l'homme est capable de progresser, car la puissance de l'homme est limitée, alors que la puissance divine est sans borne. » L'étude de l'histoire nous porte à conclure que tous les hommes vraiment grands, les bienfaiteurs de la race humaine, ceux qui ont fait aimer le bien et haïr le mal, qui ont suscité un progrès réel, ont été inspirés par la force de l'Esprit-Saint. Les prophètes de Dieu n'ont pas tous étudié dans les écoles de haute philosophie. Ce furent souvent des êtres d'humble naissance, ignorants en apparence, des inconnus sans aucune importance aux yeux du monde, parfois même ne sachant ni lire ni écrire. Ce qui éleva ces êtres supérieurs au-dessus des autres hommes et leur permit d'enseigner la vérité, ce fut le pouvoir de l'Esprit-Saint. C'est par la vertu de cette puissante inspiration qu'ils eurent une grande et profonde influence sur l'humanité. Dépourvus de cet esprit divin, l'influence des philosophes les plus sages fut, par comparaison, de peu d'importance, malgré leurs études approfondies et l'étendue de leur savoir. Les esprits exceptionnels de Platon, d'Aristote, de Pline et de Socrate, par exemple, n'ont pas assez influencé les hommes pour qu'ils désirent sacrifier leur vie pour leur doctrine. Tandis que certains de ces hommes simples, les prophètes, ont remué si profondément l'humanité que des milliers d'êtres ont volontairement subi le martyre pour soutenir leurs paroles, car ces paroles étaient inspirées par l'Esprit de Dieu. Les prophètes de Juda et d'Israël, Élisée, Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel, furent des hommes humbles, comme le furent également les apôtres de Jésus-Christ. Pierre, le chef des apôtres, avait l'habitude de partager le produit de sa pêche en 7 parts, une pour chaque jour. Et quand il arrivait à la 7e, il savait que c'était le jour du sabbat. Réfléchissez à ceci, et puis considérez la condition et la gloire où il parvint, parce que le Saint-Esprit avait accompli de grandes œuvres à travers lui. Nous nous rendons compte que l'Esprit-Saint est la source d'énergie dans la vie humaine. Quiconque obtient cette force est capable d'influencer tous ceux avec lesquels il entre en contact. Sans cet esprit, les plus grands philosophes sont impuissants, leur âme est sans vie, leur cœur est mort. Si l'Esprit-Saint ne vibre pas dans leur âme, ils ne peuvent faire œuvre utile. Aucun système de philosophie n'a jamais été capable de transformer les mœurs et les coutumes d'un peuple pour les améliorer. De savants philosophes, privés de la lumière de l'Esprit divin, furent souvent des hommes de moralité inférieure, ne manifestant pas dans leurs actes la sincérité de leurs beaux discours. La différence entre les philosophes spirituels et les autres apparaît dans leur vie. L'instructeur spirituel prouve sa conviction dans la valeur de sa propre doctrine en vivant lui-même ce qu'il recommande aux autres. Un homme humble, sans instruction, mais rempli de l'Esprit-Saint, est plus puissant que l'érudit le plus accompli de noble naissance, mais dénué de cette inspiration divine. Celui qui a été formé par cet Esprit divin peut, pendant sa vie, guider les autres vers ce même Esprit. Je prie pour vous, afin que vous soyez inspirés par le souffle de l'Esprit divin, et que par votre entremise, les autres puissent être éclairés. La vie et la moralité d'un être spirituel sont par elles-mêmes un mode d'éducation pour ceux qui le connaissent. Ne pensez pas à vos capacités personnelles qui sont limitées. Attachez-vous seulement à faire prospérer le royaume de gloire. Considérez l'influence de Jésus-Christ sur ses apôtres. Puis songez à l'action de ceux-ci sur le monde. Ces hommes modestes furent capables de répandre les bonnes nouvelles par le pouvoir de l'Esprit-Saint. Puissiez-vous tous recevoir l'assistance divine. Aucun talent n'est limité quand il est guidé par l'Esprit de Dieu. La terre n'a par elle-même aucune vie qui lui soit propre. Si le soleil et la pluie ne viennent pas la fertiliser, elle reste sèche et stérile. Pourtant, la terre n'a pas à se lamenter de ses propres limitations. Puisse la vie vous être donnée. Puisse la pluie de la grâce divine et la chaleur du soleil de vérité rendre vos jardins fertiles, afin que fleurissent en abondance d'admirables fleurs d'amour au parfum exquis. Détournez votre attention de votre propre moi limité et fixez-la sur la splendeur éternelle. Vos âmes recevront alors pleinement la force divine de l'Esprit et les bénédictions de la bonté infinie. Si vous vous préparez ainsi, vous deviendrez une torche enflammée dans le monde, une étoile de direction, un arbre chargé de fruits. Vous changerez toute douleur en joie et toute obscurité en lumière, par le rayonnement du soleil de la grâce et les bienfaits infinis des bonnes nouvelles. Voici ce qu'on entend par puissance de l'Esprit-Saint. Puissance que je prie Dieu de répandre généreusement sur vous. Chapitre 63. Conclusion d'Abdu'l-Bahá sur les 11 principes expliqués. Pendant ces réunions où nous nous sommes entretenus les uns avec les autres, vous avez tous appris à connaître les principes de cette révélation et la réalité des faits. À vous, il a été donné de connaître ces choses, mais quantité de gens demeurent encore privés de lumière et plongés dans la superstition. Ils ne savent que peu de choses au sujet de cette cause éminente et glorieuse, et la connaissance qu'ils en ont est basée principalement sur des on-dit. Les informations de ces pauvres gens ne sont pas, hélas, basées sur la vérité. Le fondement de leur croyance n'est pas l'enseignement de Baha'u'llah. Assurément, il y a une part de vérité dans ce qu'on leur a dit. Mais pour la plupart, leurs informations sont inexactes. Les véritables principes de la cause bénie de Dieu sont les 11 lois que je vous ai données et que je vous ai soigneusement expliquées une par une. Il faut vous efforcer de vivre et d'agir toujours en conformité absolue avec les enseignements et les lois de Baha'u'llah afin qu'en tous vos actes, chacun puisse voir que vous êtes, en parole et en action, des disciples de la perfection bénie. Faites tous vos efforts pour que cette cause glorieuse puisse envelopper le monde et pour que la spiritualité pénètre le cœur de tous les hommes. Le souffle de l'Esprit-Saint vous confirmera, et quoique bien des gens se lèveront contre vous, ils n'auront pas la prédominance sur vous. Quand le Seigneur Christ fut couronné d'épines, il savait que tous les diadèmes du monde étaient à ses pieds. Toutes les couronnes terrestres, si brillantes, si puissantes, si resplendissantes qu'elles fussent, s'inclinèrent en adoration devant la couronne d'épines. C'est en vertu de cette connaissance sûre et certaine qu'il parlait quand il disait « Tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre ». Voir Matthieu 28, 18. Aujourd'hui, je vous dis, gardez ceci en vos cœurs et en vos esprits. En vérité, votre lumière éclairera le monde entier et votre spiritualité agira profondément sur les choses. Vous deviendrez véritablement les torches enflammées du globe. Ne craignez rien, ne soyez pas effrayés, car votre lumière traversera les ténèbres les plus épaisses. C'est la promesse de Dieu que je vous donne. Levez-vous et servez la puissance de Dieu. Chapitre 64. La dernière réunion. Quand j'arrivais pour la première fois à Paris, il y a quelque temps, je regardais autour de moi avec beaucoup d'intérêt, et en mon esprit, je comparais cette superbe ville à un grand jardin. J'en examinais le terrain avec un soin bienveillant et beaucoup d'attention. Je le jugeais très bon et dans des conditions favorables pour y établir de fermes croyances et une foi inébranlable, car une semence de l'amour de Dieu avait été jetée dans ce terrain. Les nuages de la grâce céleste l'arrosèrent de leur pluie. Le soleil de vérité inonda de ses chauds rayons les jeunes semences, et l'on peut voir aujourd'hui parmi vous la naissance de la croyance. Le grain enfoui dans le sol a commencé à lever, et vous le verrez grandir de jour en jour. Les bontés du royaume de Baha'u'llah produiront en vérité une merveilleuse moisson. Écoutez, je vous apporte de bonnes et heureuses nouvelles. Paris deviendra un jardin de roses. Toutes sortes de magnifiques fleurs pousseront et s'épanouiront dans ce jardin, et la renommée de leurs parfums et de leur beauté se répandra dans tous les pays. Quand je pense au Paris de l'avenir, il me semble le voir baigné dans la lumière de l'Esprit-Saint. En vérité, nous sommes à l'aube du jour où Paris sera illuminé, où la bonté et la miséricorde de Dieu seront perçues par chaque créature vivante. Ne laissez pas votre esprit s'attarder sur le présent, mais regardez vers l'avenir avec les yeux de la foi, car en vérité, l'Esprit de Dieu travaille parmi vous. Depuis mon arrivée, il y a quelques semaines, j'ai pu voir grandir la spiritualité. Au début, quelques personnes seulement venaient à moi pour être éclairées. Mais durant mon court séjour ici, le nombre de visiteurs a doublé. Voilà une promesse pour l'avenir. Quand le Christ fut crucifié et quitta ce monde, il n'avait que 11 disciples et très peu de fidèles. Mais comme il servait la cause de la vérité, voyez aujourd'hui le résultat de l'œuvre accomplie pendant sa vie. Il a illuminé le monde et donné la vie à une humanité morte. Après son ascension, sa cause progressa peu à peu, les âmes de ses fidèles devinrent de plus en plus éclairées et le délicieux parfum de leur vie sainte s'est répandu partout. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les mêmes circonstances se reproduisent pour Paris. Bien des âmes se sont tournées vers le royaume de Dieu et sont attirées par l'unité, l'amour et la vérité. Tâchez de travailler si bien que la grâce et la bonté d'Abba puisse envelopper tout Paris. Nota, Abba signifie le Père, Dieu, ou la beauté, la gloire, la splendeur. Le souffle de l'Esprit-Saint vous aidera. La lumière céleste du royaume brillera en vos cœurs, et du haut du ciel, les anges bénis de Dieu vous donneront force et assistance. Remerciez donc Dieu de tout votre cœur d'avoir obtenu ce bienfait suprême. Une grande partie du monde est plongée dans le sommeil, mais vous avez été éveillés. Beaucoup sont aveugles, mais vous, vous voyez. Vous avez répondu à l'appel du royaume. Gloire à Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez été baptisés par le feu de l'amour de Dieu. Vous avez été plongés dans l'océan de vie et régénérés par l'esprit d'amour. Soyez reconnaissants envers Dieu d'une telle faveur. Ne doutez jamais de sa bonté ni de sa tendre bienveillance, mais ayez une foi inaltérable dans les bienfaits du royaume. Soyez unis par l'amour fraternel et prêts à sacrifier votre vie l'un pour l'autre, pas seulement pour ceux qui vous sont chers, mais pour toute l'humanité. Considérez la race humaine tout entière comme les membres d'une seule famille, tous enfants de Dieu. En agissant ainsi, vous ne trouverez aucune différence entre eux. On peut comparer l'humanité à un arbre qui possède des branches, des feuilles, des boutons et des fruits. Imaginez tous les êtres comme des fleurs, des feuilles ou des boutons de cet arbre, et essayez d'aider chacun et tous à concevoir et apprécier les bénédictions de Dieu. Dieu ne néglige personne, il aime chacun. La seule différence réelle entre les gens se trouvent dans le degré de leur développement. Certains sont imparfaits et doivent être dirigés en vue de se perfectionner. D'autres sont assoupis, il faut les éveiller. Quelques-uns sont négligents et doivent être stimulés. Mais tous, les uns comme les autres, sont les enfants de Dieu. Aimez-les de tout votre cœur. Nul n'est un étranger pour les autres, tous sont des amis. Ce soir, je viens pour vous faire mes adieux. Mais retenez bien ceci. Bien que nos corps puissent être très loin les uns des autres, nous serons toujours unis en esprit. Je garde chacun de vous en mon cœur. Je n'en oublierai aucun, et j'espère qu'aucun de vous ne m'oubliera. Moi en Orient et vous en Occident, essayons de tout notre cœur et de toutes nos forces de faire régner l'unité dans le monde, pour que tous les êtres forment un seul peuple et que toute la terre soit comme un seul pays, car le soleil de vérité brille sur tous de la même manière. Tous les prophètes de Dieu sont venus pour l'amour de cet objectif grandiose. Voyez comment Abraham s'efforça d'amener le peuple à la foi et à l'amour. Comment Moïse essaya d'unir les hommes par de saintes lois. Comment le Seigneur Christ souffrit jusqu'à la mort pour apporter la lumière de l'amour et de la vérité à un monde enténébré. Voyez comment Mohammed chercha à établir l'unité et la paix entre les différentes tribus sauvages au milieu desquelles il vivait. Et le dernier de tous, Baha'u'llah, a souffert 40 années pour la même cause, dans le seul et noble dessein de répandre l'amour parmi les enfants des hommes. Et c'est pour la paix et l'unité du monde que le Bab sacrifia sa vie. Aussi, efforcez-vous de suivre l'exemple de ces êtres divins. Désaltérez-vous à leur source et que leur lumière vous illumine. Soyez comme des symboles de la miséricorde et de l'amour de Dieu, comme des pluies et des nuées de grâce, comme des soleils de vérité pour le monde. Transformez-vous en armée céleste et vous ferez vraiment la conquête de la cité des cœurs. Soyez reconnaissant envers Dieu que Baha'u'llah vous ait donné une fondation ferme et solide. Il n'a pas laissé place à la tristesse pour les cœurs, et les écrits de sa plume sacrée offrent la consolation pour le monde tout entier. Il possédait les paroles de vérité, et tout ce qui est contraire à son enseignement est faux. Le but essentiel de toute son œuvre fut d'abolir les divisions. Le testament de Baha'u'llah est une pluie de bonté, un soleil de vérité, une eau de vie. C'est l'Esprit Saint. Aussi, ouvrez vos cœurs à la pleine puissance de sa beauté, et je prierai pour vous tous, afin que cette joie puisse être la vôtre. Maintenant, je vous dis au revoir. Ceci, je le dis seulement à votre personne visible. Je ne le dis pas à votre âme, car nos âmes seront toujours ensemble. Armez-vous de courage et soyez certains que jour et nuit, je me tournerai en supplication pour vous vers le royaume d'Abba, afin que de jour en jour, vous puissiez devenir meilleur, que vous soyez plus saints, plus près de Dieu et de plus en plus illuminés par le rayonnement de son amour. Fin. Maison d'édition Bailly, 205 rue du Trône, 1050 Bruxelles, Belgique. ISBN 2-87203-006-9.